nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Une lettre de Descartes de 1641, éclairant la publication des Méditations métaphysiques, a été découverte en 2009 par un chercheur néerlandais dans la bibliothèque d'Haverford College en Pennsylvanie. Le président de cette université, le professeur Emerson, remet à la bibliothèque de l'Institut de France cette lettre de Descartes retrouvée dans son université qui en avait fait l'acquisition en 1902 en toute légalité. Canal Académie vous propose d'écouter l'intégralité de cette cérémonie qui s'est déroulée le 8 juin 2010 dans la magnifique bibliothèque de l'Institut Quai Conti. Dans cette retransmission, vous entendrez les allocutions de Gabriel Debreuil, chancelier de l'Institut, de Jean-Luc Marion, de l'Académie française, de Jean Ménard, de l'Académie des sciences morales et politiques, et la réponse du professeur Emerson, président d'Haverford College. À la fin de la cérémonie, vous entendrez ensuite la présentation des autres lettres de Descartes conservées à la bibliothèque de l'Institut par Mireille Pastoureau.
Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de Haverford College, madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur de vous accueillir ici, dans ces lieux, pour une si plaisante occasion. Qui eût prévu que les destins de l'Institut de France et de Haverford College se croiseraient un jour? C'est une circonstance exceptionnelle qui nous réunit à un moment rare dans l'histoire des institutions pluriséculaires comme celle de l'Institut de France et de Haverford College. Un manuscrit autographe de grand intérêt, une lettre de René Descartes, volée à l'Institut de France au XIXe siècle, est restituée spontanément par l'université américaine d'Haverford College. Celle-ci l'avait reçue en don d'un de ses anciens étudiants qui ignorait tout de son origine. En tant que représentant de l'Institut de France, je tiens à exprimer toute mon émotion et ma profonde reconnaissance au professeur Emerson, président de Haverford College, pour la noblesse de son geste qui s'inscrit dans la tradition des hautes valeurs morales de Haverford College. En 1833, par une curieuse coïncidence, au moment où un groupe de Quakers fondait Haverford School pour dispenser un enseignement d'excellence associé aux valeurs d'intégrité de la tradition Quaker, le comte Libri Carucci de la Somaia, issu d'une ancienne famille de Florence, obtenait la nationalité française et, tel un loup dans la bergerie, était accueilli à l'Institut de France comme membre de l'Académie des sciences. Guillaume Libri était un authentique mathématicien, historien des sciences, estimé pour ses travaux érudits de haute valeur scientifique, lié à des hommes politiques influents. Il devint professeur de mathématiques à la Faculté des sciences, puis professeur au Collège de France, puis inspecteur général de l'instruction publique. Cette dernière mission l'amena à visiter de nombreuses bibliothèques françaises dans lesquelles il déploya l'autre versant de sa personnalité, celle d'un collectionneur, peut-on dire collectionneur, passionné de livres et de manuscrits et d'un excellent connaisseur de leur rareté et de leur valeur marchande. Une fois introduit parmi les collections publiques, très riches, mais encore mal connues à l'époque et mal cataloguées, et après avoir endormi la méfiance des conservateurs, il demandait qu'on le laissât seul et examinait longuement les fonds anciens. C'est ainsi que, de bibliophile averti, Libri devient un bibliopathe criminel qui commit des vols considérables, dont l'ampleur n'a paru que plusieurs années plus tard, alors qu'il avait fui en Angleterre et emporté une grande partie de son butin pour les revendre. Condamné par contumace à l'issue d'un procès tenu à Paris en 1850, Libri ne revint jamais sur le sol français. Les documents qu'il avait volés ne furent que très partiellement récupérés. L'Institut de France compta au premier rang des victimes de Libri, car son statut d'académicien le plaçait au-dessus de tout soupçon. Un témoin de l'époque rapporte que Libri venait à la bibliothèque, dans ces lieux mêmes, vêtu d'un grand manteau, lui tombant jusque par terre, même par temps chaud, et qu'il toussait, ostensiblement, pour justifier le port de ce manteau. Et il ne toussait plus lorsqu'il se croyait seul. Les deux plus grands méfaits de Libri, dans la bibliothèque de l'Institut, qui abrite les archives de notre maison, sont sans doute l'amputation par lui-même d'un carnet manuscrit de Léonard de Vinci et le vol des lettres de Descartes. Lettres de Descartes au père Mersenne, qui avait été donné à l'Académie des sciences au XVIIe siècle par Gilles Person de Roberval, l'inventeur de la balance de Roberval, et plusieurs de ces lettres se trouvent encore dispersées par le monde. Je rends hommage à M. John Andrews, chef des collections spécialisées d'Haverford College, qui a signalé sur Internet la collection des lettres autographes dont il a la charge, permettant ainsi au docteur Eric Jan Boss, que je félicite également pour sa recherche, de découvrir la lettre inconnue de Descartes. Et je remercie également le professeur Théo Verbeek de l'Université d'Utrecht, qui dirige l'édition de la correspondance de Descartes et qui nous a apporté une aide précieuse. Je n'oublie pas de saluer également M. Conrad Turner, qui, lorsqu'il était étudiant à Haverford, en 1981, a réalisé un mémoire historique sur cette lettre. Le séjour d'environ un siècle de cette lettre de Descartes sur le sol américain a été bien mis à profit. Elle y a été parfaitement conservée. Elle a contribué aux solides études classiques menées à Haverford College. N'oublions pas non plus que le président Stephen Emerson est un biologiste réputé, mais qu'il a aussi choisi la philosophie comme deuxième spécialité pour son diplôme Bachelor of Arts. Monsieur le président d'Haverford College, en proposant avec une grande élégance de restituer la lettre de Descartes retrouvée dans votre bibliothèque, vous nous consolez du mauvais souvenir que Libri a laissé dans notre institution. Désormais, lorsque nous penserons à Descartes, nous n'évoquerons plus que les vertus d'Haverford College et la chaleur de la communauté qui nous lie désormais, non seulement comme membres de cette république des lettres qui remonte loin dans le passé, qui ignore les frontières et reste vivante, mais nous y penserons comme vos obligés, heureux de célébrer un maillon de plus dans la chaîne historique, elle aussi très solide et très actuelle, de l'amitié franco-américaine.
Monsieur le Chancelier, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la Secrétaire Perpétuelle, chers confrères, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement ému aujourd'hui de recevoir, au nom de l'Académie française, la lettre de Descartes qui nous est restituée par l'intégrité de Haverford College. C'est d'autant plus émouvant pour moi que j'avais été amené, il y a quelques années, à aller donner un séminaire à Haverford College et que j'avais découvert ce lieu si spécial, si calme, si beau, si simple, près de Philadelphie, où règne une tradition spirituelle et intellectuelle forte qui constitue un lieu de mémoire à l'intérieur même de la communauté universitaire américaine. Il est aussi émouvant de penser que cette lettre qui retourne à Paris aujourd'hui, venant d'Haverford, y retourne aussi par l'intermédiaire de nos collègues néerlandais et du grand projet de travail sur la correspondance de Descartes mené par le professeur Théo Verbeek à l'Université d'Utrecht et, dans le cas présent, mis en œuvre aussi par son élève Jan Boos. Ceci indique aujourd'hui la dimension internationale de l'édition et des travaux sur Descartes, qui elle-même reflète la dimension internationale du travail et de la communauté scientifique dans lesquelles la philosophie de Descartes et la vie du philosophe Descartes se sont déployées. La lettre que nous recevons aujourd'hui fait partie d'un certain nombre de documents dont nous savons qu'ils ont été perdus, mais qu'ils existaient, et dont nous pouvons d'ailleurs espérer qu'ils existent toujours et seront un jour retrouvés. Car l'événement de l'invention de cette lettre n'est pas un événement solitaire. Il y a déjà eu des lettres de Descartes retrouvées, nous pouvons encore espérer en retrouver d'autres. Nous pouvons même espérer retrouver un jour, par exemple, le manuscrit perdu de l'ouvrage non publié et non achevé de Descartes, Les Rigoulets à Directionem Ingenii. Mais cette lettre, en elle-même, est déjà une initiation au mode de pensée qui présidait à la recherche philosophique de Descartes. Cette lettre, en effet, nous montre Descartes en plein procès de ce que nous appelons aujourd'hui la correction des preuves. Des preuves de son ouvrage majeur, Les Méditationes de Prima Philosophia. Descartes était en Hollande, ce qui ne s'appelait encore pas vraiment les Provinces Unies, et l'ouvrage était en impression à Paris. Les corrections des preuves se faisaient donc par l'intermédiaire de son attaché diplomatique personnel, son agent littéraire, dirions-nous, le père Mersenne, qui était au couvent des Minimes, qui se trouve actuellement, dont l'emplacement se trouve actuellement entre la place de la Bastille et la place des Vosges. Le couvent des Minimes, où Descartes d'ailleurs, quand il venait rarement à Paris, logeait. Descartes donc envoie à Mersenne, en le remerciant de ses courriers antérieurs, des corrections qu'il demande que l'on apporta à son édition des méditations, ou plus exactement des réponses aux objections qu'il avait demandé et qu'il voulait voir publier en même temps que l'ouvrage lui-même. L'ouvrage qui a donc un statut dialogique originellement. Quelles sont ces corrections? Il y en a quatre majeures. La première consiste à ne pas atténuer la mention que Dieu est par soi en la mention que Dieu pourrait être par soi. C'est une correction négative et comme il n'y avait rien à faire, c'est une correction qui a été faite. Il n'en va pas de même pour les trois autres corrections. La première, où Descartes demande que pour mieux affirmer l'idée de Dieu comme infini, idée positive et pas seulement une simple négation du fini, comme l'idée du froid pourrait être considérée comme une simple négation de l'idée de chaleur, Descartes demandait que l'on remplaçât « il n'y a aucun doute » par « il n'y a là aucune difficulté ». Il y avait tellement peu de difficultés que la correction n'a pas été apportée dans l'édition finale. Il y a aussi une correction apportée sur l'idée de corps infini. Descartes dit qu'on ne peut pas parler de corps infini, car s'il y a un corps infini, il y a un seul corps. Cette correction n'a pas été apportée. Et enfin, une dernière correction qui est proposée à propos de la pesanteur de l'Eucharistie. Là, il y a sans doute une lettre qui est perdue, puisque nous n'avons aucun texte de Descartes parlant de la pesanteur de l'Eucharistie. Descartes parle de la pesanteur, parle de l'Eucharistie, mais pas de la pesanteur de l'Eucharistie. Ainsi, Descartes a demandé quatre corrections. Il y en avait trois positives, elles n'ont pas été faites. Il y en avait une où il n'y avait rien à faire, elle a été faite. Peut-être l'essentiel de la lettre ne se trouve-t-il donc pas dans les corrections que l'on demandait de faire aux épreuves des méditationnes. Que dit la lettre? La lettre montre l'exil de Descartes. L'exil qui impose des corrections d'épreuves à distance par le seul père Mersenne. Mais le père Mersenne, dans cette lettre, ceci est bien précisé, est aussi l'intermédiaire des objections dont Descartes dit qu'elles viennent d'amis parisiens. Et il ajoute « Vous ne m'avez jamais dit qui étaient ces amis parisiens ». Nous soupçonnons que les amis parisiens, auteurs des deuxièmes objections, sont en fait essentiellement les porte-noms de Mersenne lui-même. C'est-à-dire que l'ami le plus proche est aussi l'un des opposants. Et donc, personne n'est dupe, Descartes évidemment pas. Il sait, et c'est ceci l'exil, que votre correspondant le plus fiable est aussi l'un de vos opposants potentiels. Et quand on est en exil, on ne peut pas échapper à cette ambiguïté. C'est une lettre aussi où Descartes, du fond des Provinces Unies, tempère son exil de visites d'amis qui viennent du pays. Et c'est précisément parce qu'éloigné du pays, quand il reçoit, il le cite dans la lettre, la visite d'un gentilhomme de Touraine, un gentilhomme de Touraine qui lui fait les hommages de l'un de ses adversaires, le père Bourdin, qui avait suscité la colère de Descartes par ses objections, ses cavillations contre les essais de la méthode, parus 4 ans plus tôt. Et Descartes avait envisagé de faire paraître les méditations avec une préface spécialement destinée au père Bourdin et à un autre membre, personnage que je vais évoquer, et recevant une visite d'un ami du père Bourdin qui venait de Touraine, le pays de Descartes, au bout de quelques heures, Descartes a décidé qu'après tout, le père Bourdin était un homme charmant et qu'il n'avait aucune raison de poursuivre la polémique. Il ne l'a pas poursuivi, il a supprimé une préface polémique qui aurait, à mon avis, affaibli le début des méditations. Et nous le devons donc à la nostalgie de la Touraine et au gentilhomme de Touraine que le père Bourdin ait été en quelque manière pardonné. Pardonné aussi fut M. Petit, qui avait fait lui aussi des objections, mais sur la partie métaphysique du discours de la méthode. Il a été pardonné parce que l'abbé Picot venait visiter Descartes en même temps que le gentilhomme de Touraine, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, Descartes sans doute ému de voir des gens du pays qui venaient le visiter et combattre la nostalgie, la pardonner à l'un et à l'autre, ce qui nous permet d'avoir les méditations sans avant-propos polémique, les avoir dans l'état où elles sont, comme un grand texte qui n'a besoin de s'opposer à personne pour triompher. Cette lettre, et c'est la chose la plus émouvante, se termine par une mention de Pierre Gassendi. Pierre Gassendi, chanoine de la cathédrale de Digne, Digne ecclésiastique, était à la fois un grand écrivain, l'auteur d'une grande correspondance, un érudit et un personnage considérable, quoique, rétrospectivement, un philosophe d'une taille bien inférieure à celle de Descartes. Il partageait avec Descartes l'opposition à Aristote en général et à la physique aristotélicienne en particulier. Il n'était pas grand mathématicien, il ne pouvait pas être cartésien ou galiléen en physique, ignorant les mathématiques. Il avait donc choisi de s'opposer à Descartes en étant atomiste, l'autre physique possible de l'Antiquité. Il était donc atomiste, c'est pour ça que les modernes qui manquent de culture s'imaginent qu'il était matérialiste, il ne l'était évidemment pas. Toujours est-il que c'est à lui que Mersenne a proposé de faire des objections aux méditations, ce sont les célèbres cinquièmes objections que Descartes vient de recevoir. Ces objections sont assez fermes, et la réponse de Descartes ne le sera pas moins. Et sous le nom de chair, c'est Gassendi, et de âme, c'est Descartes, ils se frictionnent réellement. Pourtant, Descartes dit, et je le cite, « Puisque M. Gassendi m'a voulu nommer Cartesius », c'est-à-dire voulu traduire le nom de Descartes en latin, puisque tout ceci se passe en latin. « Vous retiendrez, s'il vous plaît, ce nom-là, au lieu où il l'a mis, et même, vous le pourrez aussi mettre dans les objections du théologien de ce pays, les premières objections de Caterus, au lieu où il a mis Descartes. » C'est-à-dire que Descartes demande à Mersenne que ce soit son adversaire, le plus célèbre, Gassendi, qui lui donne son nom, à lui Descartes. Non pas Descartes, parce qu'en latin, ça n'est pas beau, mais puisque M. Gassendi écrit un si beau latin, un si beau néo-latin, dirions-nous maintenant, qu'il soit suivi et que je sois en latin Cartesius. Acceptez que votre adversaire, que vous venez de réfuter avec fermeté, soit néanmoins celui qui vous donne votre nom, cela marque une certaine qualité de relations intellectuelles et humaines. Cette qualité de relation, c'est précisément ce qui s'appelait la République des lettres, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient réunis par des questions communes, quelque grande que leur divergence puisse être, restaient, à cause de cette divergence sur un point de recherche commun, de plus en plus proche, en sorte que chacun pouvait donner à son adversaire son nom propre. Si cette lettre ne nous donnait que cette leçon, ce serait déjà une lettre absolument remarquable. Et nous vous remercions de nous la rendre à nouveau disponible.
Monsieur le Chancelier, Madame et Messieurs les Secrétaires Perpétuels, Monsieur l'Ambassadeur, chers confrères, chers amis, Mesdames, Messieurs, le propos que j'ai eu l'honneur de me voir confier pour cette séance mémorable est à la fois de célébration et de reconnaissance. Célébration pour l'entrée à la bibliothèque de l'Institut de France d'une précieuse lettre autographe méconnue de Descartes. Reconnaissance surtout parce que ce nouveau trésor de notre fonds nous est venu par un geste exceptionnel de générosité de la part de l'institution américaine qui le détenait, le très réputé Haverford College, où il appartenait à une ample collection de documents anciens, jadis légués par un collectionneur avisé. Reconnaissance aussi à l'égard du chercheur néerlandais qui a le premier reconnu l'intérêt de cette pièce et a bien voulu faire profiter l'Institut de sa découverte et des réflexions qu'elle lui a inspirées. C'est donc une joie et un honneur pour nous tous que de pouvoir exprimer cette reconnaissance non seulement en ce lieu prestigieux, mais en présence même du donateur, le président Stephen G. Emerson, et en celle du chercheur qui a su ouvrir cette piste, M. Eric Jan Boos, tous les deux ayant fait le voyage de Paris pour cette circonstance. S'il m'est permis de quitter pour quelques instants la fonction officielle qui m'est impartie et de me laisser aller à l'anecdote, voire à l'évocation toute contingente de souvenirs personnels, je me dois de faire reconnaître que contre toute attente, soit de moi-même, soit de quelque autre personne, à commencer par M. le chancelier, j'étais d'une certaine façon prédisposé à remplir la fonction qui me revient aujourd'hui. Voilà longtemps, en effet, qu'une sorte de destin malicieux m'a conduit à m'intéresser attentivement, d'une part aux lettres inédites de Descartes, de l'autre au prestigieux Haverford College et à sa riche collection d'autographes. Voici aujourd'hui que ces deux éléments se rejoignent. Ce n'est pas la première fois qu'il m'est donné d'avoir à présenter une lettre originale et inconnue de l'auteur du discours de la méthode. Une autre, assez brève, mais totalement inédite, avait été découverte vers 1950 aux Archives nationales, parmi les fonds notariaux. Elle a longtemps attendu l'occasion d'une publication, et c'est à moi qu'est échu l'honneur de la mettre au jour, en collaboration avec Mme Madeleine Jurgens, initiatrice de l'entreprise, et parallèlement à d'autres pièces exceptionnelles de la même collection, ce qui s'est fait dans la revue d'histoire littéraire de la France de 1979. Il vaut la peine de s'arrêter quelques instants à cette pièce, parce qu'elle se prête à une comparaison intéressante avec celle que nous découvrons en ce moment. Datée de Deventer le 24 février 1634, elle est sensiblement plus ancienne. Elle confirme, de la part de Descartes, la décision de s'établir définitivement hors de France. C'est même dans cette perspective qu'il a écrit à une de ses cousines demeurant à Paris, Marguerite Ferrand, pour lui demander de faire don à un ancien laquais de vêtements rangés dans un coffre déposé à la veille de son départ chez cette cousine, les livres et papiers qui s'y trouvaient aussi devant rester sur place. Donc certainement assez important, malgré les dires du philosophe qui s'en allait sous-estimé, puisque la cousine, pour sa décharge, avait fait authentifier par notaire et classer comme minute la lettre reçue, précaution qui nous a valu de pouvoir recueillir ce précieux document. On voit que celui-ci concerne essentiellement l'homme Descartes, alors que la découverte nouvelle que vient de nous commenter Jean-Luc Marion, portant la date du 27 mai 1641 et adressée au père Mersenne, correspondant du philosophe à Paris, comporte un texte beaucoup plus étendu et procure de vives lumières sur le savant et le philosophe à une époque décisive de sa carrière, marquée par la publication des Méditations. Il est plus intéressant encore de remarquer l'existence de deux catégories de correspondants parisiens de Descartes, les membres de sa famille, d'une part, et d'autre part, son réseau d'amis savants et philosophes, avec en tête le père Mersenne. Les deux groupes pouvant fusionner, puisque certains parents de Descartes s'intéressaient aussi à son œuvre scientifique. Ce qui pouvait me préparer à mon rôle d'aujourd'hui, c'est aussi la connaissance directe que j'avais de Haverford College. Il y a fort longtemps, puisque c'était au début de l'année 1971, en arrivant au terme d'une tournée de conférences qui m'avait conduit dans un grand nombre d'universités américaines, j'avais eu le privilège d'être accueilli pendant plusieurs jours dans ce collège. Occasion de savourer les charmes du printemps dans la campagne de Pennsylvanie, couverte de magnolias en fleurs, et de découvrir l'attachante singularité des communautés Amish établies dans le voisinage, mais aussi de se livrer à des activités plus proprement culturelles, notamment à la visite de musées proches, témoignant d'une extraordinaire passion pour la peinture française. L'un de ses musées étant plus particulièrement consacré à Renoir et l'autre à Salvador Dali. Mais ce qui, en raison de mes curiosités personnelles, m'a le plus retenu, fut la collection d'autographes dont j'entendis parler sur place et qui, naturellement, comportait la lettre de Descartes, dont je n'ai rien appris à ce moment-là, sa présence n'ayant pas encore été remarquée, mais que je peux imaginer aujourd'hui dans le cadre où elle était conservée. En vérité, les amis que j'avais sur place ont surtout attiré mon attention sur une lettre autographe de Racine, attention aux amateurs, que j'ai pu examiner tout à loisir. Certes, elle était déjà connue et publiée depuis longtemps, mais la trace de l'original s'était perdue. Je l'ai signalée à maintes reprises à des spécialistes du poète. Il vaudrait la peine de se livrer à une collation précise des pièces françaises de cette collection, lesquelles au reste ne sont pas très nombreuses, pour rechercher d'autres inédits possibles. En particulier, la lettre de Descartes ayant fait partie des pièces dérobées par Libri aux archives de l'Académie des sciences, comme nous l'avons appris, on pourrait se demander s'il n'en existe pas d'autres de même origine, mais avec des signatures moins prestigieuses, qui, pour être moins dignes de remarque, garderaient cependant une grande valeur documentaire. Des diverses situations que je viens d'évoquer, peut-on dégager quelques moralités ? J'en tirerai surtout un éloge de la communication. Descartes, établi en Hollande, y bénéficiait d'une tranquillité matérielle et morale qui lui permettait de vaquer en toute liberté à ses recherches et à la composition de ses ouvrages. Mais cet avantage ne pouvait jouer que si le lien était préservé avec des interlocuteurs lointains, notamment parisiens, dont il avait besoin, en vue soit d'assurer le soin de ses affaires, soit d'entretenir un dialogue avec la société savante, nécessaire pour être informé de l'actualité, pour tester ses propres essais et pour rester présent dans les réseaux de la culture dont Paris était une plaque tournante. On s'étendra plus spécialement sur ce dialogue, car il n'y a pas de vie culturelle et savante sans communication. Un individu isolé, fût-il très doué, donnera difficilement toute sa mesure. Ce qui entraîne l'obligation d'entretenir des correspondances, comme nous en enregistrons un excellent exemple, ou bien au moins de fréquenter un milieu urbain où les esprits poursuivant des objectifs comparables puissent se retrouver. Au point de rencontre de tous ces besoins se situe soit le collège universitaire, soit l'institution académique. L'élève des jésuites à la flèche qu'a été Descartes s'est prolongé dans le correspondant du père Mersenne, informé lui-même par les échanges tenus dans l'académie qu'il avait fondée en 1635 et qui, maintenu par plusieurs successeurs, sera élevé par Colbert en 1666 au rang officiel d'Académie des sciences. Ce qui vient d'être dit du passé peut se transposer dans le présent. Le dialogue entre Descartes et Mersenne, à l'arrière-plan duquel se profile l'activité des collèges et des académies, nous conduit à la cérémonie d'aujourd'hui. C'est une nouvelle communication qui se réalise, où collèges d'une part et académies rassemblées dans l'Institut de France d'autre part sont dûment présents. Derrière les livres et les documents, dont l'amour a régné tant à la bibliothèque de l'Institut de France qu'à celle de Haverford College, c'est tout ce qu'ils représentent qui nous est transmis. Toute une culture dont l'universalité est signifiée par ce don transatlantique. Science et philosophie y apparaissent au premier plan, mais il faut ajouter la médiation de l'histoire. Une histoire vivifiée par le sentiment que ce que nous a légué le passé entre pour quelque chose dans ce que nous sommes aujourd'hui. Une histoire qui continue à se faire, puisque la communication qui sera bientôt scellée officiellement entre nos deux institutions va s'établir dans la durée grâce à des initiatives dont j'espère qu'elles se multiplieront. Ainsi, après cette évocation du passé, après la joie de la fête présente, pourrons-nous contribuer, toujours dans la gratitude, à orienter le proche à venir. Je vous remercie.
Nous allons maintenant procéder à la remise de la lettre.
Monsieur le Chancelier, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs de l'Institut de France, au nom de tous mes collègues à Haverford College, je viens vous transmettre mes chaleureuses salutations. C'est avec un très grand plaisir qu'aujourd'hui nous retournons à l'Institut, son propriétaire légal, une lettre de René Descartes adressée à M. Permerson. Comme vous le savez, cette lettre avait disparu de la bibliothèque de l'Institut il y a près de 200 ans. Haverford College se réjouit particulièrement de contribuer au maintien des traditions d'échange académique et culturel qui incarnent le meilleur de notre monde. Aux membres de l'Institut et de ses académies, nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance. C'est un grand honneur que vous nous avez fait en nous invitant dans ce lieu de l'apprentissage et des recherches et en nous octroyant votre prix. Nous sommes en effet très honorés d'être votre invité à l'Institut de France. Pendant presque 4 siècles, les académies françaises et l'Institut de France ont été la plus célèbre et les plus respectées des sociétés savantes du monde, rassemblant linguistes, chercheurs en lettres, en beaux-arts ainsi qu'en sciences naturelles et politiques. Elles ont joué un rôle important et stimulant de dialogue et l'interaction entre chercheurs et en promouvant le progrès social et scientifique pour le bénéfice de tous. Nous nous considérons à Haverford sincèrement honorés d'être entre votre compagnie. Haverford College a été fondé en 1833 pour apporter les progrès de lumière européenne en philosophie, littérature, mathématiques et sciences aux jeunes hommes en Pennsylvanie et des autres États de la Fédération américaine. Depuis 1980, nous sommes une université mixte. Il est un peu ironique que quelques années après la fondation de notre université, M. Guglielmo Libri commença son vol de plus précieux manuscrits et de la bibliothèque de l'Institut de France. Depuis plus d'un siècle, alors que ces trésors étaient vendus et revendus, Haverford s'est développé pour incarner un nouvel idéal de l'éducation supérieure, the American Liberal Arts College. À Haverford, nous offrons aux étudiants et études un large éventail de disciplines dans les arts, les humanités, les sciences sociales et les sciences naturelles. Ils étudient dans un contact intellectuel et physique étroit avec même leur professeur le plus distingué, apprenant en séminaire et en laboratoire en petits groupes. Haverford n'ayant pas des programmes de maîtresse ni de doctorat, les étudiants conduisant eux-mêmes leurs recherches indépendantes mais supervisées dans leurs champs de spécialisation respectifs, par exemple en philosophie et en astrophysique ou en sciences politiques. Ils s'inspirent directement de leurs professeurs tout comme ces derniers s'inspirent des premiers. En effet, cette lettre de René Descartes fut l'objet d'une étude historiographique par un jeune étudiant de Haverford, Conrad Turner, qui est parmi nous aujourd'hui. Haverford College est une petite université de 140 professeurs et 1200 étudiants, mais offre des larges horizons académiques. De plus, en tant qu'institution fondée par la Société des Amis, notre croyance en l'intégrité personnelle et l'académique ainsi qu'en la responsabilité individuelle influence tout ce que nous faisons. Rendre ce merveilleux document historique à l'Institut est une affaire pour nous appropriée et significative. D'abord, les méditations de René Descartes sont probablement aujourd'hui philosophiques le plus influentes au monde et certainement la monographie la plus étudiée à Haverford. Tout étudiant en chercheur, en épistémologie, métaphysique, éthique ou théologie s'imagine sans doute encore aujourd'hui Descartes pensant devant sa lampe en prononçant ces mots « Je pense, donc je suis ». Ensuite, comme l'enseignent nos professeurs à nos étudiants, la République des lettres est véritablement universelle et il n'existe pas de limite à l'enseignement et à la recherche. C'est pourquoi il sait bien aujourd'hui que nous établissons de nouveaux liens avec nos collègues à l'Institut et ses académies, liens que nous espérons entretenir et cultiver dans les années à venir. Enfin, ceci nous rappelle que les rapports entre les savoirs et la communauté sont véritablement dialectiques, que chaque partie s'en sort agrandie quand les droits sont respectés, quand le savoir est partagé et quand de nouveaux liens d'amitié se tissent. C'est avec notre plus grande foi en la communauté intellectuelle de chercheurs et en tous qu'elle peut contribuer à la paix, à la justice et au progrès de l'humanité, que Haverford College s'honore et se plaît à retourner cette lettre de René Descartes à l'Institut de France. Nous espérons que son retour inaugurera une nouvelle ère pour la recherche et gérera les bases d'un échange promoté entre Haverford College, l'Institut de France et la communauté universelle internationale. Veuillez accepter, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs de l'Institut de France, le retour de cette lettre avec tous nos compliments, notre gratitude et nos plus grands espoirs.
Vous venez d'entendre la retransmission de la cérémonie de la remise de la lettre de Descartes datée de 1641 à la bibliothèque de l'Institut de France qui s'est déroulée le 8 juin 2010.